France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19, soirée de gala exceptionnelle. Aujourd'hui, sous les dorures du Palais Garnier, l'Opéra National de Paris fête ses 350 ans. C'est une institution qui a été créée par Louis XIV. Bonjour Chantal Cazot.
Bonjour Mathilde Munoz.
Vous êtes musicologue, rédactrice en chef de la revue L'Avant-Scène Opéra. J'aimerais d'abord savoir ce que ce lieu, chargé d'histoire ô combien prestigieux, représente pour vous, ce qu'il évoque pour vous. Est-ce que vous y avez beaucoup de souvenirs?
Oui, l'Opéra de Paris... Pour moi, ce sont des souvenirs d'émotions incroyables. Quand on entend des voix, d'abord c'est du spectacle vivant, comme tous les théâtres, mais c'est du spectacle vivant décuplé. Vous avez des chanteurs, vous avez un orchestre, vous avez des décors, vous en prenez plein les mirettes et plein les oreilles. C'est assez fabuleux, l'opéra.
Et votre premier souvenir?
Ça s'est fait en étapes. C'était absent dans ma famille, donc j'ai découvert ça au collège, grâce à mon professeur de musique.
Vos parents n'écoutaient pas d'opéra?
Non, mes parents étaient plutôt opérettes, et Luis Mariano par exemple, ce qui m'a beaucoup accompagnée et que j'aime beaucoup aussi. Mais oui, la découverte de l'opéra, ça a été au collège, d'abord par le disque La Voix de Maria Callas. Premier éblouissement, je me souviens avoir été complètement hypnotisée par cette voix. C'était les années 80, c'était les années aussi où toutes les productions de Toscan du Plantier au cinéma sont arrivées, les Carmen, les Don Giovanni, Delauzé qui étaient un petit peu avant mais qui sont repassées, Amadeus de Forman. Donc ensuite il y a eu la découverte par le cinéma. Et enfin à Paris, la découverte d'un Péléas et Mélisande. Ça a été mon premier opéra en scène. Et j'en ai encore parfois la chair de poule en parlant, tellement le souvenir plastique, visuel, sensitif a été marquant.
Et quel est le niveau de l'Opéra de Paris? C'est l'un des meilleurs du monde, sans chauvinisme?
Oui, absolument. Sans chauvinisme, bien sûr, c'est l'un des meilleurs du monde. Aussi parce qu'il cumule des forces artistiques rares ailleurs, c'est-à-dire à la fois des forces musicales et un ballet. Faut pas l'oublier.
Oui,
le ballet de l'Opéra de Paris est vraiment l'un des meilleurs du monde, sinon le meilleur. Donc le tout est absolument exceptionnel. Bien
oui, parce
sûr.
Qu'il y a deux salles. Il y a Garnier d'un côté, oui. Bastille de l'autre. L'un pour le ballet, l'autre pour l'opéra. Hein, grosso modo.
Grosso modo, il y a aussi de l'opéra à Garnier, mais c'est vrai que le ballet est plus volontiers à Garnier.
L'Opéra de Paris, c'est l'institution lyrique la plus vieille du monde. Il y en avait pas avant en Italie, en Allemagne, en Russie.
Si, il y en avait avant. Les premiers opéras sont apparus à Venise dans les années 1630, donc le premier tiers du XVIIe siècle. Mais l'Opéra de Paris, lui qui a été créé en 1669, est le seul à être resté jusqu'à aujourd'hui permanent dans son institution, dans son fonctionnement. Évidemment, il est passé par de multiples salles, mais c'est le plus ancien aujourd'hui à rester dans l'héritage de son institution.
Oui, il a traversé l'histoire de France. Est-ce que vous diriez que c'est un enjeu de pouvoir aussi?
Bien sûr. Bien évidemment, l'opéra, la direction qu'on va y choisir, la programmation qu'on va y insuffler, tout ça dessine parfois une volonté, une ambition culturelle et donc aussi une ambition de politique. Bien évidemment, aussi bien dans la politique tarifaire qu'on va y appliquer, les publics qu'on va vouloir toucher ou pas toucher. Bien évidemment, le pouvoir est au cœur du problème.
Et vous le disiez, parce que le chef de l'État met son nez aussi dans le choix du patron de l'Opéra de Paris. Et c'est le cas en ce moment, puisque l'actuel directeur Stéphane Lissner quittera son poste dans 2 ans, hein, c'est à l'été 2021. Mais c'est dès maintenant qu'il faut lui trouver un successeur.
Ah, ça aurait été bien de lui trouver un successeur déjà l'année dernière. On est très en retard et tout le monde, tout le petit microcosme des mélomanes attend avec impatience qu'un successeur soit nommé.
Mais alors qu'est-ce qui se passe?
On ne sait pas trop. C'est un peu compliqué. Je pense que là, pour le coup, les enjeux de pouvoir, en effet, se sont croisés et on fait des clashs dans les couloirs, et qu'on n'a pas réussi à faire émerger un nom, et c'est un peu dommage. Alors on espère que tout ça va se résoudre pour le meilleur de l'Opéra de Paris, mais c'est vrai qu'on est très en retard.
Pourquoi en retard? Pourquoi faut s'y prendre si longtemps à l'avance?
Parce qu'une saison, d'abord, met du temps à se bâtir, à se construire, à se concevoir. Concevoir une saison, ça veut dire choisir quel titre on va donner avec un équilibre des époques, des langues, des esthétiques. Ensuite, il faut trouver les artistes pour les défendre, les chefs d'orchestre, parfois fois inviter les metteurs en scène et les artistes lyriques. Et quand on veut des grands noms d'artistes lyriques aujourd'hui, des noms comme Anna Netrebko par exemple ou Jonas Kaufmann, là je cite les deux plus connus, ce sont des noms qu'il faut inviter parfois jusqu'à 4 ans à l'avance et pour certaines productions jusqu'à 5 ans.
Ils savent ce qu'ils vont faire 4 ans à l'avance ?
Oui. Alors ils savent en espérant qu'ils pourront le faire, c'est-à-dire que les voix évoluent, les voix changent et parfois on a des surprises quand on signe un contrat en 2000 et qu'on chante en 2005 et que la voix a évolué entre temps. Parfois les surprises peuvent arriver. Mais aujourd'hui, oui, alors pour beaucoup d'artistes, c'est 2 ans, 3 ans, mais pour les très très grands, c'est 4 ans. Oui.
Et donc au final, qui va choisir ce nouveau directeur ?
Alors normalement,
c'est Emmanuel Macron directement ?
Normalement, le choix doit incomber au ministre de la Culture. On a bien vu que là, Emmanuel Macron souhaite très probablement avoir un poids dans la décision, mais en tout cas, il faudrait que la décision arrive.
Donc il y a un directeur et derrière, il y a combien de personnes à l'Opéra ?
1800 salariés. C'est une énorme machine, une énorme usine. 1800 salariés qui sont tout autant donc les forces musicales et de danse dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des salariés de l'administratif, évidemment. Et également des artisans qui fabriquent les décors, les costumes.
C'est vrai qu'ils ont un savoir-faire extraordinaire, qu'il y a notamment une tissu-tech dingue.
La tissu-tech est exceptionnelle. C'est une sorte de bibliothèque des tissus qui conserve la mémoire de tout ce qui a été utilisé et surtout qui se tient au courant de toutes les avancées des nouveaux tissus qui peuvent servir pour améliorer les costumes, pour faire des effets particuliers. C'est une caverne d'Ali Baba.
Mais tout ça, c'est gardé, c'est mis de côté. Il n'y a pas moyen de visiter. De voir tout ça, c'est pas exposé.
On peut visiter. Je recommande d'ailleurs aux auditeurs de visiter évidemment le Palais Garnier parce que c'est une œuvre architecturalement foisonnante et magnifique, mais aussi l'Opéra Bastille. Il faut pas en avoir peur, même si on peut de l'extérieur le trouver un petit peu gris.
Il fête lui aussi un anniversaire, 30 ans cette année.
Oui, tout à fait. Il fête ses 30 ans et la visite des espaces non publics de l'Opéra Bastille est absolument fascinante. On prend la mesure de son gigantisme, des espaces qui ont été prévus pour le travail des décors, qui sont des espaces où, quand on passe à l'intérieur, on a l'impression de passer dans des hangars d'aviation. C'est tout à fait
gigantesque.
Oui.
Et tout cela, j'imagine, a un coût. Ça coûte cher.
Bien sûr, les budgets sont de plusieurs millions d'euros et sont évidemment aujourd'hui très tributaires du mécénat. C'est une des choses qui a le plus évolué dans les 10-20 années passées, évidemment.
Mais tributaire aussi des finances publiques. Hein,
bien évidemment.
Parce qu'il y a des subventions. D'ailleurs,
bien évidemment.
D'après ce que j'ai lu, ça étonne quand même beaucoup de salles à l'étranger qui trouvent qu'il est quand même un peu trop subventionné cet opéra.
Bon, évidemment, si on compare avec les fonctionnements à l'étranger, nous sommes toujours dans le particularisme français qui est à la fois notre originalité et peut-être aussi notre sauvegarde de certains pans culturels de cet ordre-là. Oui, les subventions d'État sont importantes, évidemment, mais ce sont elles qui permettent de maintenir des prix, on pourra en parler peut-être, mais de maintenir des prix qui sont néanmoins abordables, notamment par rapport à d'autres opéras étrangers qui sont moins subventionnés et qui sont beaucoup plus chers.
Alors j'allais parler des prix, justement, puisque dans le financement, vous le disiez, il y a les finances publiques, il y a le mécénat et la billetterie.
Oui,
ça coûte cher d'aller à l'opéra ?
Il y en a pour tous les prix. Il y en a pour tous les prix. Évidemment, ça peut monter très cher. Très cher, c'est quoi ? Par exemple, 250 euros pour les...
Ça, c'est le prix maximum.
Pour les
places, ça va jamais
plus
au-delà.
Oui. Alors, si ça peut aller au-delà dans certaines programmations avec certains artistes stars ou certaines programmations considérées comme absolument exceptionnel. Mais c'est rare dans l'année. Ça, c'est un prix maximum qui est de toute façon déjà en deçà de certains prix maximum pratiqués en stade ou pour le prochain concert de Madonna si elle se produit encore, par exemple. Mais pour les prix les plus abordables et qui sont des places tout à fait valables...
On n'est pas derrière un poteau.
Non. Alors, derrière un poteau, ça va être au Palais Garnier. En effet, si on prend les premiers prix du Palais Garnier, c'est un théâtre à l'italienne, une architecture à l'ancienne. Les premiers prix sont les moins bien placés. L'acoustique est bonne, hein, mais c'est vrai qu'on voit très mal. Mais à l'Opéra Bastille, qui est une salle frontale, qui a été construite pour que tout le monde puisse bien voir de n'importe quelle place, les premiers prix sont des places debout. Alors, il faut être peut-être un peu jeune ou bien portant. Alors, à 5 euros, on peut y assister. Et à 10 euros, on peut avoir les dernières catégories qui sont tout en haut et on voit absolument bien la scène. Donc à partir de 10 euros, puis 25 si on veut une place assise encore un peu plus correcte, on peut tout à fait passer une bonne soirée à l'Opéra Bastille.
Il faut être sur son 31 pour aller à l'Opéra, c'est obligatoire ?
Non. Ou alors, je vais vous répondre, oui, peut-être sur son 31, mais son 31 à soi. Alors, plus aucune obligation aujourd'hui de porter une robe du soir, un smoking, ça, non, absolument pas, sauf peut-être le 31 décembre au Palais Garnier, mais bon, c'est des soirées exceptionnelles. Mais non, vous pouvez tout à fait y aller en jean et en chaussures, en sneakers, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Après, reste le rapport qu'on a envie d'avoir au spectacle vivant. Si on a envie de redonner un peu aux artistes du prestige qu'ils vont nous donner, on peut mettre son 31 à soi, c'est-à-dire son meilleur jean, si on n'a que des jeans, c'est pas interdit.
Merci beaucoup Chantal Cazot, rédactrice en chef de la revue L'Avant-Scène Opéra, et le numéro de juillet sera un numéro spécial justement sur l'Opéra de Paris, en raison de cet anniversaire, les 350 ans de l'Opéra de Paris. Merci d'être venue sur France Inter. Merci.